Il s'agit d'un sujet en trois. Et c'est d'où ce côté acteur aussi que je peux avoir. J'apparais comme ça dans une des scènes. Eh bien, pour moi, si vous voulez, le réel, qui n'est pas la réalité, le réel, c'est paradis. Le réel, c'est vraiment ce qui est sexuel dans l'expérience humaine, hein, à distinguer constamment de la réalité. Le symbolique, c'est vraiment les élucubrations que je peux faire de ci, de là, comme théorie des exceptions. Je peux écrire, en effet, un texte sur Dostoïevski, sur Joyce, pour expliquer comment tout ça fonctionne. Ça, c'est l'activité du symbolique. Et l'imaginaire, ce sont les romans, c'est-à-dire la mise en scène d'un narrateur qui trappe comme femme, au portrait du joueur. Vous voyez, il y a le réel, le symbolique et l'imaginaire, un sujet en trois. Et voilà peut-être ce qui fait question, c'est qu'il est interdit, peut-être, ou très difficile d'être un sujet divisé en trois.
Oui. Mais moi, je pensais pas du tout au rapport qu'il peut y avoir entre Paradis, théorie des exceptions et des romans comme Femme pour ce genre, des romans figuratifs, si vous voulez, pour reprendre une métaphore picturale. Moi, je pensais aussi à la multitude de vos interventions, dans les médias.
Oui, mais les médias sont de l'ordre de l'imaginaire.
La multitude de vos prises de position publiques, qui sont toujours mal comprises, vous le savez très bien. Sont toujours mal comprises. Pourquoi? D'ailleurs, parce que vous êtes un écrivain considérable avec Paradis. Les gens qui ont des prises de position publique du même ordre, n'intéresse vraiment personne, ça n'a aucune importance. Si c'est mal compris, c'est parce que derrière, il y a Paradis.
Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui met en question complètement.
Ces prises de position qui sont dans le spectacle, dans la société du spectacle, comme disait Debord, ces prises de position, c'est pas femme ou... Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que femme ou théorie d'exception, donc c'est encore autre chose, dont vous ne parlez pas.
C'est une activité dans l'imaginaire qu'il est interdit de représenter comme imaginaire, parce qu'il ne faut pas dire à la société que tout ce qu'elle déploie comme art du spectacle et comme propagande est de l'ordre de l'imaginaire. Et moi, je dis que c'est de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est du roman, en réalité, tout ça.
Daniel Régnier.
Oui, moi, j'en reviens à un aspect qui m'a tout à fait fasciné, c'est cet aspect tout à fait phonique. Et c'est probablement le seul livre que j'ai jamais lu qui ait suscité en moi la question, mais enfin, comment travaille-t-il avec la voix?
Oui, bien sûr.
Et vous revenez là à un domaine d'une culture passée qui m'est très chère. Vous êtes en fait un clerc, vous êtes un clerc monacal, et en témoigne cet usage très fréquent de ces insertions latines.
Bien sûr.
Qui nous rappelait cette entreprise très parodique des Goliards, cette cassure dans l'attente du langage, ce jeu sur des signifiants disséqués, vivificantem, vivi et ficane et thème, avec les indications prosodiques. Il y a là tout un travail de levain, je trouve, sur la langue, qui s'adresse à l'oreille, et c'est probablement le seul livre que j'ai jamais lu qui s'adresse ainsi à la fois au regard et à l'ouïe du lecteur, que l'on revivifie d'une certaine manière.
Il faut que l'œil écoute, il faut en effet l'entendre, et c'est un livre qui est travaillé sur... de l'intérieur même de la voix intérieure.
Laurent Dispo, qui n'a encore rien dit.
Je trouve cette comparaison aussi avec les Goliards tout à fait juste. Oui. Je voulais citer, là, dans le cadre du travail de la voix, de la citation, à la fois du travail de la voix, de la citation du latin à l'intérieur même du texte français, et de la question de la musique, le passage, par exemple, qui concerne la mort de Mozart, moi qui m'a beaucoup touché, ému, et qui dit « 5 décembre 1791, Mozart meurt peu après 1h du matin », et qui montre Mozart au fur et à mesure qu'il descend dans la mort, enfin qu'il agonise, se chantant lui-même, d'une certaine façon, et se citant les paroles latines du Requiem, ces paroles qui sont toujours les mêmes et qui sont chaque fois travaillées autrement par des musiciens, des compositeurs différents, et au fur et à mesure qu'il meurt, il se chante pour lui-même, le Requiem pour lui-même. Alors ça, c'est une des choses qui m'ont ému. Le départ de ce Paradis 2, je trouvais très très intéressant, très bien la réflexion sur ce que c'est que le cœur. C'est d'autre chose qu'un muscle, simplement un muscle fibré, etc. Et puis la réflexion sur le fait qu'une simple tache solaire, c'est aussi un jeu de mots sur le mot, sur le surnom, le pseudonyme que vous êtes choisi, Solers, c'est qu'une tache solaire modifie les conséquences que ça peut avoir sur le foie de chacun, etc. Enfin, il y a toute une digression là-dessus. Toujours ce côté qu'il y avait déjà dans Paradis 1.
C'est de la Tchernobyl,
de la Tchernobyl, oui. Ce côté très physiologique. Oui. Enfin, très physiologique. Et pour reprendre le mot qui a été dit tout à l'heure par Salgas de sublime, je dirais, dans le même genre de jeu de mots que vous faites, je mettrai un trait d'union sublime, et ça fait allusion à ce que vous disiez aussi sur le sommeil profond. C'est en dessous de la limite sublimina. Oui, enfin, c'est subliminaire. En même temps, plutôt que sublime, je dirais subliminaire. Et puis, j'indique simplement que le livre se termine par joie autrefois, joie d'autrefois. Ça, la dimension de sommeil profond, c'est la dimension d'archaïque.
Autant je me souviens de Paradis 1 se terminer par voix, non?
C'est ça.
Enfin, il me semble le début, enfin, le début enchaîne.
Par soleil, et soleil, voix, lumière.
Oui, c'est ça, il me semble le début reprend les derniers mots de
Paradis 1. On en reste là pour Paradis 2.